Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous, le magazine de la double bonne soirée. 18h en podcast avant le passage antenne, 22h minuit. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actualité ce soir, c'est Bolsonaro un an après. Un an après l'élection d'un président d'extrême droite au Brésil, le pays semble tourner le dos à la communauté internationale sur plusieurs plans. L'écologie, les droits de l'homme et j'en passe. Sur place, la résistance s'organise. Un documentaire formidable sort la semaine prochaine, porté par la militante trans Indianara. On y découvre une communauté décidée à se battre dans le pays qui produit le plus grand nombre d'homicides de personnes LGBT au monde. Ce soir, le NRV pose la question. Un an après Bolsonaro, Rio ne répond plus. Benoît Lagane.
Oui, et pour en parler autour de la table, Haute Chevalier Baumel et Marcelo Barbosa, co-auteurs du film Indianara, donc qui sort la semaine prochaine. Erika Campello, co-présidente de l'association Autre Brésil. Marcelo Caetano, réalisateur du film Corpo et les Tricots, présenté au Forum des Images samedi à 15h dans le cadre du Festival État du Monde et membre du jury au Festival Chéri Chéri dans la section court-métrage. Et Gaspard Estrada, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris.
Et comme elle ne fait rien comme tout le monde, ce sera l'Italie ce soir pour Marion Guilbeault.
Bah oui, j'allais pas faire simple non plus, quoi. Oh. Donc non, il est chanteur, il est dessinateur, il est romancier, il s'appelle Fabio Viscogliosi et il est en live à la fin de l'émission.
Et puis direction Cuba. Alors ce soir, vraiment, on part partout. Cuba. Et on reste ici au studio. Ça, c'est vraiment le service public. Cuba, direction Cuba dans le NRV La Suite. Cette semaine, France Inter Plus de Give Me Cuba s'arrête à Santa Clara. C'est au centre de l'île. Et c'est là que repose le Che. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Donc, on l'aura bien compris, le Brésil est au cœur de l'actualité culturelle. Mercredi 27, sortie en salle d'Indianara, votre film, Haute Chevalier et Marcelo Barbosa. Et puis samedi prochain, diffusion de Corpo et les Tricots, votre film, Marcelo Caetano, dans le cadre du festival État du Monde, au Forum des Images à Paris. Alors, avant d'entrer quand même dans ces deux films, d'abord un retour sur l'actualité au Brésil. On est à peu près un an après l'élection de Bolsonaro. Lula a été libéré il y a 10 jours. Je rappelle qu'il avait été emprisonné depuis avril 2018 pour 8 ans et 10 mois pour corruption. D'abord, comment il a pu être libéré?
Comment il a été libéré?
Erika Campello. Il était quand même emprisonné pour 8 ans?
Il était emprisonné pour 12 ans, parce que comme il a fait appel, la peine a augmenté. Donc il a été libéré par la Cour suprême brésilienne, parce que il avait énormément de recours qui a été déposé par ses avocats qui contestaient le procès de Lula en disant qu'il n'était pas légal parce qu'il a été condamné sans preuve matérielle. Depuis toujours, c'était la partie de la défense. Et surtout, depuis septembre, il y a un cap qui est passé au Brésil, c'était avec les révélations du site internet d'information du journaliste américain Glenn Greenwald qui montrait des échanges sur Telegram qui a été fait entre le juge Moro, actuel ministre de la Justice de Bolsonaro, et le procureur de la République. Et donc, ces échanges montraient qu'il avait conflit d'intérêts de la part de la justice brésilienne.
Gaspard Estrada, dès sa sortie de prison, Lula s'est dit libre de contribuer, je le cite, à libérer le pays de Bolsonaro. Mais comment il peut faire? Parce que de toute façon, il ne peut pas être officiellement candidat avant en 2022.
Alors, en effet, au jour d'aujourd'hui, Lula est inéligible. Il n'a pas de droit civique, compte tenu du fait qu'il est encore condamné. Il fait appel de ses condamnations. Cela étant dit, la Cour suprême n'a pas dit son dernier mot par rapport au cœur du sujet. Et c'est ce qu'évoquait Erika Campello tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une demande faite par la défense de Lula qui vise justement à ce que la Cour se prononce sur cette partialité du juge Moro. Et si cette demande aboutit, la Cour suprême pourrait annuler la condamnation de Lula, ce qui pourrait avoir un effet sur les autres procédures en cours, ce qui permettrait à Lula d'être innocenté et donc de retrouver ses droits politiques. Selon les observateurs, cette décision pourrait intervenir dans les prochaines semaines et c'est pour cela que le discours de Lula aujourd'hui est très offensif.
On dit pourtant que, en fait, ce serait la gauche qui aurait le plus à perdre dans le retour de Lula. Comment on comprend ce paradoxe, en fait ?
Moi, je ne le pense pas. Je pense que jusqu'à présent, la gauche était orpheline de leadership et le retour de Lula permet à la gauche de retrouver son champion.
Mais à la fois, elle est très divisée, la gauche brésilienne.
Elle a toujours été très divisée. Il y a pas moins de 5 partis qui, en quelque sorte, orbitent autour de la gauche au Brésil.
Disons que pour simplifier, on aurait quand même le Parti Socialiste qui est critiqué en interne et puis de l'autre, le Parti des Travailleurs qui est marqué par la corruption.
Oui, la classe politique brésilienne est critiquée pour son affairisme, mais on a bien vu dans le cas de Lula qu'il y a eu aussi une instrumentalisation politique de la corruption, et de ce point de vue-là, le fait que Lula revienne sur la scène politique donne aux militants de la gauche un espoir. Cela étant dit, on est encore dans une phase préliminaire, il faudrait que la Cour suprême se prononce, et aussi il faudrait que la gauche donne un projet, donne un espoir. Or, aujourd'hui, on est loin de là, parce qu'aujourd'hui, la gauche, certes, elle va très mal, mais elle pourrait avoir une lueur d'espoir si Lula est innocenté.
Aude Chevalier-Baumel et Marcelo Barbosa, on va revenir sur votre film Indianara dans un instant. Je rappelle qu'Indianara est une militante trans d'origine indigène qui défend la cause LGBT, les prostituées, le droit à l'avortement. Elle se définit comme une anarchiste de gauche. Elle était un temps élue suppléante à Rio. Aujourd'hui, plus précisément d'ailleurs, elle se définit comme une pute parlementaire, végane, athée, anarchiste. Super programme. Vous l'avez eu en ligne depuis la libération de Lula ?
Oui, on l'a vu même.
Qu'est-ce qu'elle en pense ?
Elle est contente, elle l'a fêté. Indianara, elle a toujours soutenu Lula, mais elle a aussi toujours critiqué la gauche.
Ah bah oui, la gauche qui les a trahis, qui a trahi la cause LGBT, oui, à une époque. Oui.
Et elle a toujours dénoncé aussi la désunion de la gauche. Donc, mais ce qui n'empêche que elle a fêté la libération de Lula sur des condamnations qu'elle juge injustes.
Erika.
Oui, après, je pense que la question de la gauche brésilienne, c'est une question qui se pose à toutes les gauches dans le monde, ici en France aussi. Le problème, c'est pas la désunion de la gauche. La question, c'est qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qui se passe au Brésil? Aujourd'hui, on a un gouvernement d'extrême droite au pouvoir au Brésil et qui beaucoup classifient déjà comme néo-fasciste. Donc, comment on crée de l'union, sachant que Lula et la gauche, ce n'est pas la même chose. Pour comprendre le Brésil, il faut comprendre le leader charismatique qui représente Lula, ce qu'il est. Donc, c'est et ce qu'on appelle au Brésil le lulisme. Et de l'autre côté, le Parti des Travailleurs, qui c'est son parti. La réjection, beaucoup d'analystes disent par rapport au Brésil, Bolsonaro n'a pas gagné l'élection. Qui a gagné les élections au Brésil? C'est le sentiment et la haine contre les partis des travailleurs. Mais cette haine ne se dirige pas à Lula. Et c'est très différent. Mmh. Mais une question qu'on doit se poser au Brésil, c'est Lula, 74 ans, qu'est-ce qu'on fait après?
Il n'y a personne qui arrive après comme figure, oui, Gaspard?
Malheureusement, non. Lula, à l'époque, lorsqu'il était aux affaires, il avait tenté de créer une dauphine de toutes mains, Dilma Rousseff. On a bien vu que ça a été un échec,
total.
Par la suite, il a tenté de soutenir depuis la prison Fernando Haddad, ce qui a un score honorable de 45%. Est-ce que pour autant, c'est le leader dont le Brésil a besoin? Les mois et les années à venir le diront.
Marcelo Caetano, on le disait à l'instant... Indianara a fêté avec la gauche la libération de Lula. Vous l'avez perçu comment, cette libération de Lula?
J'ai fêté aussi.
Vous l'avez fêté aussi?
Oui, qui a vécu le Brésil pendant le gouvernement de Lula doit fêter, parce que j'ai eu une université incroyable, j'ai la possibilité de travailler avec le cinéma pour les politiques publiques du gouvernement Lula et du gouvernement Dilma. C'était dommage que le gouvernement de Dilma, ce n'était pas génial, parce que moi-même, je la crois géniale. Je trouve Dilma une femme très intelligente, un excellent ministre quand elle était ministre de Lula. Il y a des bons moments dans son gouvernement. Et moi-même, j'ai envie aussi de l'union de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle nouvelle, parce que le Parti Socialiste a annoncé qui dans les élections municipales de la prochaine année, ils vont faire des alliances avec PT, le Parti des Travailleurs. Mmh. Donc je pense que peut-être on va sortir de cette immobilité.
Marcelo Barbosa, vous avez voté pour qui?
En portugais?
Oui. Ah non, en français. Ça va être difficile sinon.
Je peux l'aider.
Je pense qu'il y a une question majeure qui est au Brésil. Nous avons des problèmes...
Je pense que la question au Brésil est une question beaucoup plus grande, beaucoup plus importante.
Porque mesmo que a esquerda tivesse ganho as eleições, Os problemas são muito grandes para ser resolvidos.
Même si la gauche avait gagné les dernières élections présidentielles, il y a beaucoup de problèmes à résoudre.
Nós estamos vivendo o final de um ciclo e eu acho que o Bolsonaro percebeu isso e as pessoas que apoiam Bolsonaro perceberam isso e querem introduzir esse totalitarismo no Brasil.
E on est à la fin d'un cycle et je pense que Bolsonaro s'est rendu compte qu'on était à la fin d'un cycle et il a profité de ça pour mettre en place le totalitarisme.
Et ça a l'air de bien marcher. On dit que la politique sécuritaire de Bolsonaro serait plutôt efficace et aurait permis de connaître une chute considérable du nombre d'homicides, 22% en moins. C'est plutôt pas mal, non?
Après,
le bilan est positif.
C'est toujours.
Rica Campello.
Ouais, les chiffres, on les fait dire ce qu'on veut bien le faire dire. Quand on parle qu'il a eu 22% de la chute des homicides, on parle des homicides violents au Brésil. Ça, c'est pas faux, c'est vrai. Mais on part de très loin. Hein. 63 000 personnes mortes de manière violente, sachant qu'aujourd'hui encore, le Brésil, c'est le pays au monde qui tue plus les défenseurs des droits humains et de l'environnement. Donc là, il y a 15 jours encore, il y a un leader autochtone qui était tué dans un guet-apens en pleine Amazonie, quelqu'un qui défendait la forêt. Donc voilà, c'est qui on arrête de tuer, comment on arrête de tuer, et évidemment qu'il faut baisser ces taux d'homicide.
On a parlé de ce projet que nous souvenons de paquet anti-crime qui vise à simplifier la législation criminelle et qui est porté donc par le ministre de la Justice Sergio Moro. C'est quoi cette politique-là?
Paquet anti-crime.
Cette politique, en fait, elle consiste en... Il y a trois principaux éléments. Le premier, c'est libéraliser en gros le port d'armes et le fait que les individus puissent être armés. Ce qui est très dangereux puisque selon les propres ONG qui sont spécialistes sur ces questions de sécurité publique, plus il y a d'armes qui circulent dans la rue, plus il y a de violence. Le deuxième élément porte sur le fait que les forces de l'ordre qui sont des serial killers au Brésil, puisque plus de 6000 personnes en 2018 ont été assassinées aux mains des forces de l'ordre, puissent avoir en quelque sorte une sorte d'impunité, puisque le code vise à réformer le code et à exempter les policiers de crimes s'ils répondent à des tirs. Et le troisième vise en quelque sorte à simplifier toutes les procédures pénales pour pouvoir mettre en prison des individus. De mon point de vue et je pense que ce paquet anti-crime ne résout pas les vraies causes des problèmes du Brésil, qui est la corruption qui existe au sein des agences de crime. Deux, le fait que l'aspect prévention et le côté des droits de l'homme, qui est un élément central et qui devrait être traité au plus haut niveau au Brésil, n'est pas du tout inclus dans ce projet, qui est manifestement répressif.
Uniquement répressif, oui.
Complètement
tout à fait.
Répressif. Et dont on a bien vu au Brésil, lorsque les armes circulent davantage, eh bien, il y a plus de violence. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce projet-là, non seulement aura des effets négatifs pour le Brésil, mais en plus, je pense qu'il a peu de chances d'être validé par la Chambre des députés.
Erika et ensuite Marcelo. Ouais.
Et je voudrais ajouter dans ce que vient de dire Gaspard, c'est qu'il faut savoir à qui la violence, vers qui la violence est dirigée au Brésil. La violence brésilienne, elle est raciale, elle est complètement classiste, parce que qui est en prison au Brésil? Le Brésil a encore un autre triste record, c'est le nombre de la population carcérale, 700 000 personnes. Et de ces 700 000 personnes qui sont en prison au Brésil, 65% sont des jeunes noirs entre 19 et 25 ans. Qui la police tue au Brésil? C'est 6000 personnes, majoritairement des jeunes des quartiers périphériques. Donc c'est ça la question aussi, comment on change? C'est une répression envers une partie de la population brésilienne.
Marcelo Barroso.
Eu penso também que é muito difícil falar da questão da violência no Brasil sem falar das milícias, que é o grupo que o Bolsonaro está ligado diretamente.
Je pense que c'est compliqué de parler de la violence au Brésil sans parler de la milice, qui est un groupe armé avec qui Bolsonaro entretient des relations.
Eu acho que aqui na França não tem nada parecido com uma milícia.
Je pense qu'en France, il n'y a rien de semblable à la milice.
E é um grupo que vai se beneficiar diretamente dessas leis que tem no pacote do ministro Moro com a liberação das armas.
Et c'est un groupe qui va bénéficier directement de ce paquet anti-crime que le juge Moreau veut mettre en place.
On reste au Brésil tout de suite en musique avant de retrouver les deux films, puisqu'il n'en a pas encore été question. Un nouvel album tout de suite pour le Brésilien Lucas Santana qui s'inquiète en acoustique, comme vous tous ici manifestement, de l'avenir de son pays.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor.
Bolsonaro gagne, il n'y aura plus d'école publique pour tes gamins. Il va privatiser les écoles et les universités. Ton travail, c'est fini. Tu vas gagner tellement peu que tu vas préférer ne pas bosser.
Laurent Goumard, sur France Inter.
C'est Indianara qu'on entend, hein. Indianara qui appelle à la résistance pendant une manif. Le Brésil au programme du NRV ce soir, à une semaine de la sortie de ce film Indianara, construit autour de la figure de cette militante politique trans. Les co-réalisateurs Aude Chevalier-Baumel et Marcelo Barbosa sont nos invités. À leur côté, le cinéaste Marcelo Caetano, Erika Campello de l'association Autre Brésil et Gaspar Estrada de Sciences Po. Aude Chevalier-Baumel et Marcelo Barbosa, Indianara, c'est donc le portrait d'une militante politique trans dans un pays où on sait que les droits sont complètement menacés. Une personne LGBT meurt chaque jour assassinée ou poussée au suicide. Vous l'avez filmée, elle, pendant un moment précis, avant, pendant et après les élections qui ont vu Bolsonaro arriver au pouvoir. Et à un moment critique, c'est au milieu du film, c'est l'assassinat en mars 2018 de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, militante lesbienne, engagée contre les violences policières et originaire des favelas. Vous l'avez filmée chez elle, avec son mari qui est toujours en slip de bain, en train de nettoyer le jardin, c'est vraiment formidable. Manifestement, il a un beau paquet. Dans les meetings et sur le terrain, ça ne gâche rien. On la voit demander aussi la destitution de Temer à un moment donné, et plus tard d'accuser la gauche d'avoir trahi la cause LGBT. Ça, c'est pour situer qui est cette femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ?
Aujourd'hui, Indianara, elle est toujours suppléante conseillère municipale.
D'accord.
Mais en réalité, elle a été exclue de son parti, le PSOL, qui est le parti Socialisme et Liberté. Dans le film, elle est déjà interdite de se candidater comme députée fédérale, et puis ensuite, elle se fait donc expulser. Et elle dénonce une gauche hypocrite et son parti. Et elle se présente aux prochaines élections municipales comme conseillère municipale, donc à travers le PT, le parti de Lula. Ça, c'est auto dernière nouvelle.
Est-ce qu'elle est menacée? Parce qu'on la voit dans sa maison avec des caméras de surveillance.
Indiana Rall a toujours été menacée, enfin, depuis qu'elle est activiste et depuis qu'elle est encore plus en politique. Et les menaces se sont renforcées après la mort de Marielle. Voilà, donc elle vit, elle a toujours été menacée, elle s'est jamais plus protégée que ça avant la mort de Marielle, qui marque un tournant quand même dans sa vie privée.
On va y revenir justement. Marcelo Caetano, vous la connaissez?
Oui, je la connais. C'est un militant très important à Rio. Je suis déjà allé à Casanenc, c'est la maison qu'elle a faite pour accueillir des transsexuels qui sont exposés de ses maisons, de sa famille. Donc, elle a un travail que j'admire beaucoup.
Comment elle est perçue au Brésil? Parce que là, on a un film tout à sa gloire. Mais comment elle est perçue par les Brésiliens?
À Indiana, c'est une figure très polémique, mais c'est bien ça, non? Parce que elle n'a pas de temps à perdre. La situation des transsexuels au Brésil, c'est très violente. L'expectative de vie des transsexuels au Brésil, c'est 35-36 ans. Donc, c'est une force de la nature. On dit au Brésil, c'est une force de la nature. Oui, vraiment très, très fort. Mais je pense que toute la situation d'expulsion du parti socialiste, c'était très 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 chiant, parce que vraiment c'est un parti qui jusqu'à ce moment fait beaucoup de choses pour les LGBT. Après ça, c'était un peu décevant de voir que Indiana était expulsée du parti.
Mais pour quelle raison d'ailleurs ce revirement politique?
Indiana n'est pas du tout politiquement correcte.
Non.
Elle ne baisse pas la tête. Voilà.
Heureusement.
Et malheureusement, en politique et même à gauche et au Brésil, comme dans plein d'autres endroits, il faut être politiquement correcte, et elle n'est pas du tout prête à ça, elle n'est pas du tout prête à changer son langage, à changer
ses origines. Elle perd de pute toutes les deux minutes, oui.
Et en fait, c'est son quotidien.
Tout à fait.
Et donc, c'est ce qu'elle représente. Donc, elle va
Parce
pas
qu'on
changer.
La voit, on voit qu'elle prend soin donc d'une communauté de trans, de travailleurs, de travailleuses du sexe qui vivent dans une grande pauvreté à Rio de Janeiro. Et au départ, elles sont dans une maison, la Casa de Nem. Peut-être qu'on peut resituer ce que c'est cette maison. Vous connaissez aussi, Erika?
Non, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert
à travers le film.
J'adore ce film. Je suis fan d'Indiana. C'est un film qu'on a passé dans notre festival Brésilien Mouvement au mois de septembre à Paris, qui a eu un succès fou. Et c'est très important parce qu'on voit là, à travers ces films et à travers la Casanenc, comment les manques d'État, de la présence de l'État pour ces personnes-là, elle est souvent... c'est ça, de personnes comme Indiana qui vient rendre service, mais un service qui devait être de l'État, du public. Elle vient dans le bénévolement créer cette case, créer cette maison pour accueillir ces personnes.
La maison et la nourriture, on l'apprend, hein, sont payées par des associations. Bolsonaro arrive au pouvoir, la maison est fermée, mais je crois que d'ailleurs l'expulsion date d'avant l'apparition de Bolsonaro. Les filles sont expulsées, doivent trouver un autre lieu de vie. Aujourd'hui, elles sont où, puisque la Casa Nem n'existe plus?
La Casa Nem existe toujours, ailleurs.
Ailleurs. On voit d'ailleurs à la fin du film qu'ils cherchent de nouveaux lieux.
Oui, tout à fait. La Casa Nem est beaucoup plus forte qu'un seul bâtiment. Donc Indiana a fait une autre occupation. Elle a donc squatté un autre endroit à Copacabana, un immeuble de 6 étages. Et avant d'arriver à ça, beaucoup de filles sont restées dans la rue. Elle-même, Indiana est passée par des moments compliqués, elle a fait une tentative de suicide, et puis elle a réussi à occuper ce bâtiment, elle a regroupé ses forces physiques et ses forces humaines, on va dire, tous ceux et celles qui l'entourent, et aujourd'hui elles sont plutôt bien installées dans cette occupation qui résiste, et qui résiste plutôt bien.
Marcelo Barbosa, vous avez commencé le film sur un cimetière, c'était le point d'entrée évident pour un tel film?
Pardon?
O filme começou sobre um cemitério, era um ponto óbvio para começar o filme?
Para hoje era muito óbvio.
Para hoje, oui, c'était évident.
Ah, oui?
Ela sempre quis isso.
Moi, j'ai toujours voulu, oui, c'est ça. C'est ce que...
Mas eu acho muito clássico, né? Vários filmes clássicos começam au cinéma soviétique, tu as muitos filmes.
Mais c'est très classique, plein de films classiques commencent dans un cimetière, le cinéma soviétique par exemple aussi.
Il faut dire qu'ici, vu le nombre de meurtres et d'assassinats dont il est question dans le film, on comprend bien que vous ayez commencé là-dessus. Marcelo Caetano, dans votre film qui est moins politique apparemment, Corpo Electrico, on suit un jeune ouvrier de Sao Paulo qui essaye de s'échapper d'un travail fatigant par la fête. Qu'est-ce que vous vouliez montrer de ce milieu, de la place de la communauté gay au Brésil?
Oui, c'est un film qui c'est pas de la communauté gay, mais c'est un film qui parle plus de la solidarité entre les différents gens marginalisés au Brésil. J'ai fait une recherche dans des fabriques, dans un quartier qui s'appelle Bom Retiro à São Paulo, que c'est un quartier industriel qui travaille avec des vêtements. J'ai trouvé des formes de solidarité qui m'intéressaient beaucoup, donc j'ai écrit une fiction sur ça. C'est un ouvrier qu'il y a des relations entre les gens noirs, les émigrés, et tous les femmes très exploitées dans ces fabriques trouvent une forme de catharsis, de ressignifier sa existence pour la fête, pour l'alcool, pour la musique, pour sortir de cet ambiant complètement oppressif de l'industrie. Donc, il n'est pas évidemment politique, il a une autre forme de regarder la politique. Pour moi, c'est très important aussi de parler des politiques poétiques, donc la possibilité de faire une poésie politique. Donc, il est plus comme ça, il est plus subtil, je pense.
Mais c'était faire ce film et montrer ces personnages qui étaient politiques au fond. Ils sont peu visibles dans le cinéma brésilien, justement, les communautés que vous montrez.
Ils sont visibles au cinéma brésilien. Je pense que c'est mais moins une question de représentation et plus une question de solidarité. J'ai toujours dit ça sous ces films. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est parler de la possibilité de faire une communauté outsider pour faire face à la violence du néolibéralisme de l'extrême droite au Brésil. Donc, mais j'ai tourné ces films avant le coup d'État de Dilma, donc j'ai fait ces films dans un moment d'espoir,
oui.
de conquête de la communauté LGBT.
Aujourd'hui, vous ne pourriez pas du tout faire le même film aujourd'hui.
Peut-être.
Il y aurait le même sentiment d'optimisme.
Parler de rosté, c'est parler de la résistance aussi. Ouais. Parler de la fête, ces gens détestent la fête. Ces gens détestent qu'on.
Ah oui, les derniers tweets de Bolsonaro sont en train de montrer des images complètement délirantes pour pointer du fait que le carnaval serait un lieu de strup, dégénérer, etc. Juste une question, Gaspard Estrada, vous avez vu le film Indianara? D'accord, moi je vous le conseille. J'ai une autre question. Parce que au centre du film, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment le film bascule à ce moment-là. C'est l'assassinat de la femme politique et sociologue Marielle Franco, conseillère municipale de gauche à Rio de Janeiro. Elle était noire, ouvertement lesbienne, visée par des menaces de mort. Où en est l'enquête aujourd'hui? Un an plus tard.
Alors, l'enquête aujourd'hui est...
Erika Campello.
Oui, l'enquête aujourd'hui est très lente. Il a un gros problème. Amnesty International a sorti un rapport le printemps dernier pour dénoncer le processus par rapport à l'enquête. Parce que vraiment, il a énormément de pistes qui n'ont pas été enquêtées.
Mais surtout que son assassinat a été montré, filmé.
Non.
Pas filmé, photographié.
Pas filmé, parce que c'est ça la question. Ah. Les caméras du centre-ville de Rio ont été éteints au moment de son assassinat. Sachant qu'il y a une chose très importante dont parlait Marcelo tout à l'heure, c'est la question des milices, ces mafias qui dominent l'État de Rio aujourd'hui, qui a un parapouvoir. Et du coup, ces milices sont liées à l'assassinat de Marielle. Il est plus préoccupant au Brésil aujourd'hui ce que, après l'assassinat de Marielle, un des suspects qui est en prison est allé dans la résidence de luxe où habite Bolsonaro.
Ce qui explique pourquoi la presse a sorti récemment le fait que Bolsonaro pourrait être inquiété par cette affaire, Gaspard.
Oui, il y a des faisceaux qui tendraient à démontrer un lien entre les milices, en tout cas entre ce groupe-là et la famille de Bolsonaro, que ce soit les enfants, les anciens couples des enfants de Monsieur Bolsonaro. Ce qui est très clair, c'est que en dehors du cas particulier de Marielle Franco, la famille Bolsonaro est liée aux milices. Elle a soutenu politiquement les milices de Rio et les leaders des milices de Rio tout au cours de la carrière parlementaire de Jair Bolsonaro et des enfants de Bolsonaro. Donc ça, c'est un fait avéré. La question est de savoir si il y a réellement eu un lien direct entre Marielle Franco et Jair Bolsonaro. Et pour le moment, on peut pas le confirmer.
Marcelo Barbosa.
Parece que tudo começa a se ligar nesse momento.
On dirait que tous les chemins convergent en ce moment.
É muito difícil de acusar o Bolsonaro de estar ligado diretamente ao crime da Marielle.
C'est compliqué d'accuser directement Bolsonaro du crime de Marielle.
Mas o fato é que ele tem fotografias com os assassinos.
Mais il a des photos où on le voit avec les exécutants.
O filho dele namorava uma das filhas do assassino.
Un de ses fils sortait avec la fille d'un
des assassins.
De ces assassins.
Não é qualquer coisa. E ao mesmo tempo ele começa agora uma fase no governo dele que é de atacar, de destruir completamente as instituições, os serviços públicos.
E aujourd'hui, il attaque directement le service public et toutes les institutions dans son gouvernement.
Parece que ele se prepara para um momento que vai vir logo no Brasil, onde as milícias vão ter que agir diretamente contra
Comme
o Estado.
Comme s'il se préparait pour ce moment où les milices vont agir directement contre l'État.
Il y a aussi cette histoire du député socialiste de Rio de Janeiro, Gene Willis, ouvertement gay, qui a renoncé à son troisième mandat en début d'année à cause, dit-il, de nombreuses menaces de mort qu'il aurait reçues depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Vous l'avez rencontré ?
Moi, je connais Jean Willis, oui, et je l'ai filmé dans mon documentaire d'avant. Et je comprends qu'il en est arrivé à un stade où il n'avait pas d'autre solution que de fuir. Il est aussi, lui, il fait aussi partie du PSOL, le même parti que Marielle.
Que Marielle ?
Qui est le parti qui a le plus, à travers Marcelo Freixo, dénoncé les milices au Brésil. Et donc, voilà, il était directement menacé et ouvertement gay aussi.
C'est pour cette raison, j'imagine, Eric Campello.
Oui, on connaît très bien Jean Willis. Il est venu en France, on a fait une tournée de 10 jours à Paris où il a rencontré énormément d'étudiants à peut-être pas à Sciences Po, mais on a fait plusieurs rencontres, débats avec lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut plus retourner au Brésil. Il est sorti du Brésil dans un cas extrême quand même, parce qu'il était menacé de mort et il n'arrivait pas à se... Il a réussi après beaucoup de dénonciations auprès de la Cour inter-européenne des droits humains d'avoir de la protection, mais une protection qui venait que de la police, du Congrès national, du Parlement brésilien, et qui l'accompagnait de chez lui au travail. Le reste du temps, il n'avait pas de protection. Donc, sa famille était menacée. Il a reçu des menaces contre sa mère, contre la vie de sa mère et de son neveu. Donc, c'est vraiment une violence très importante.
Comme au temps de la dictature, il y a aujourd'hui un exil du Brésil.
Énormément. Ici à Paris déjà, il y a au moins 5-6 personnes, des figures de la politique brésilienne des gauches qui se sont exilées à Paris et par ailleurs dans le monde.
Gaspard Estrada, comment vous regardez l'avenir de ce gouvernement là-bas ?
Alors, sombre compte tenu de ce qui a été évoqué.
Soutenu par la population quand même, manifestement.
Mais alors justement, la question de fond, c'est est-ce que c'est politiquement viable ? Puisque le Brésil, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis que la démocratie est revenue, en quelque sorte depuis la constitution de 88, sur les 5 présidents qui ont été élus, dont 2 ont été destitués. C'est pas rien. Pour cela, il faudrait que M. Bolsonaro réussisse à avoir un soutien fort du Parlement, un Parlement qui est conservateur. Il n'a jamais été aussi conservateur qu'aujourd'hui, mais un Parlement qui est aussi qui n'a pas de logique politique partisane, mais une logique d'intérêt. Or, M. Bolsonaro a beaucoup de mal à créer une base de soutien parlementaire. Il vient même de quitter son propre parti il y a quelques jours, le PSL. Les affaires de corruption le poursuivent. L'économie va mal. De ce point de vue-là, moi, j'ai aussi des questions qui commencent à surgir dans ma tête et que je lis aussi dans la presse par rapport à la pérennité de Bolsonaro, ce qui me fait craindre que M. Bolsonaro n'exclut pas de se radicaliser et de se radicaliser dans ce versant autoritaire. Parce qu'il n'a pas les conditions politiques pour gouverner le Brésil, en tout cas de la même manière que l'ont fait les présidents qui sont arrivés au bout de leur mandat. Je pense donc à Cardoso, je pense à Lula. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je pense...
De rétablir une dictature, c'est ce que vous voulez dire.
Mais je pense que, de fait, la police aujourd'hui, la police fédérale du Brésil, elle agit de plus en plus selon des logiques politique, Monsieur Moreau, et d'ailleurs c'est le cas dans le cas de Marielle Franco, les ONG sont très critiques par rapport à la proposition de l'ancien juge de Sergio Moreau de fédéraliser l'affaire de Marielle Franco, parce qu'elle ne croit pas dans la police fédérale. La police fédérale a mené également des opérations contre des opposants politiques, mais pas uniquement, y compris le président du parti de Monsieur Bolsonaro, Luciano Bivar, a été l'objet d'une perquisition chez lui, alors qu'il devrait être l'allié préférentiel du président. Et donc c'est pour ça que je vois surgir des comportements qui ne sont pas propres d'une démocratie.
Jimmy solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tape le terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. Pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper, en s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras à dulciner. Et Jimmy cogite déjà beaucoup ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer la nuit.
Aloïs Sauvage dans l'énerver, la programmation non genrée de Jean-Baptiste Audibert.
Brasil acima de tudo.
France Inter.
3B, B, 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 Bible, balle, bœuf. Voilà pourquoi les Brésiliens ont voté hier.
Le credo de Jair Bolsonaro, il a payé des balles contre les criminels et l'opposition, la Bible contre les homosexuels, le bœuf ou l'agro-business tout puissant.
Le nouveau rendez-vous.
Bolsonaro élu avec 55% des voix, un président d'extrême droite, un nostalgique de la dictature militaire.
Laurent Goumard.
Justement, un nostalgique de la dictature militaire, l'armée, quelle position aujourd'hui par rapport à Bolsonaro? Il n'y a jamais eu autant de militaires, on le disait pendant la chanson, au gouvernement, mais l'armée, quelle position?
Alors, en effet, c'est une question centrale aujourd'hui au Brésil. L'armée est extrêmement présente dans les ministères. Près d'un tiers des ministres de Bolsonaro viennent des casernes, donc c'est une donnée importante. Cela étant dit, je sens qu'aujourd'hui, l'armée, en tout cas les gradés, sont en retrait par rapport à la gestion de Monsieur Bolsonaro, qui est un gouvernement impopulaire. Aujourd'hui, 30% des Brésiliens soutiennent ce gouvernement. Ils étaient 60% en début de l'année, donc lorsque Bolsonaro a été investi. Donc c'est une trajectoire assez inquiétante. Et surtout, l'armée, en tout cas les corps, les gradés, n'ont pas le sentiment d'être écoutés par M. Bolsonaro. M. Bolsonaro écoute surtout sa famille, ses enfants. Ils ont un gourou, un astrologue qui habite aux États-Unis et qui prend des décisions très fortes, très dures, cruciales sur le plan des politiques publiques. Et ce gourou est très mal vu des corps militaires. Et donc, de ce point de vue-là, cette gestion qui multiplie les scandales, multiplie les excès, finalement est assez mal vu du corps militaire qui, y compris, est mal, disons, traité par M. Bolsonaro, puisque l'armée a perdu des arbitrages budgétaires. Et donc, de ce point de vue-là, le corps militaire qui, sous Lula, obtenait des fonds, par exemple, pour mener à bien une partenariat stratégique avec la France. Le Brésil s'était doté en une technologie de sous-marins. Il y a eu aussi l'achat d'avions de chasse. Eh bien, la plupart de ces programmes nucléaires et militaires stratégiques ont été stoppés par le gouvernement Bolsonaro. De ce point de vue-là, il s'agit d'une position assez ambiguë.
Dossier culturel maintenant.
Oui, après l'armée, la culture, parce que ce dimanche réunissait au Forum des images plusieurs cinéastes pour alerter sur la situation culturelle au Brésil. Alors, coupe budgétaire, fermeture programmée de l'Ancine, qui est l'équivalent du CNC. Marcelo Caetano, le président Bolsonaro, il en est où par rapport à la fermeture de cette agence nationale du cinéma? Donc, où on en est où? Et puis, comment la résistance s'organise
au niveau culturel?
Au niveau culturel.
Je pense que pour le cinéma, nous sommes dans un moment technologique et on n'a pas besoin de soutien de l'État tout le temps. C'est très important. J'ai commencé à travailler avec le cinéma parce qu'il y avait des agences. Il y avait un CINE, c'est le CNC brésilien, qui maintenant il est en pause. Il y a une enquête de corruption très violente d'anciens directeurs d'un CINE. C'est nommé par Michel Temer. Les vice-présidents qui ont fait la coupe d'État à Dilma, qui ont le blanchiment d'argent, qui ont fait beaucoup de choses en Chine. Donc, il y a une enquête maintenant. Donc, l'agence est en pause.
Que disent les cinéastes
et les mouvements culturels? Est-ce qu'ils font, comme dans le film, on apprend une grande manifestation, et puis on s'en va à 8h du soir, et puis un autre jour, une grande manifestation, ce qui, au fond, ne sert à rien? C'est ce que dit Indianara dans votre documentaire.
Alors, les mouvements s'organisent au Brésil, les mouvements culturels, les mouvements sociaux, heureusement. Il y a de la résistance, il y a une réflexion, il y a une mise en commun de tout ça. Là, ce qui se passe aujourd'hui avec le cinéma, c'est que le cinéma... On a parlé beaucoup au débat de dimanche au Forum des images. C'est les politiques publiques mises en place par le gouvernement de Lula ont explosé le cinéma brésilien dans le monde. On voit là aujourd'hui, c'est comme a dit Kleber Mendonça Filho dimanche, le réalisateur de Bacurau, c'est un très mauvais moment pour détruire le cinéma brésilien. Les films sont dans tous les festivals internationaux les plus importants du monde, donc on a des films partout, même probablement un film aux Oscars. La question, c'est que Bolsonaro, il ne veut pas détruire le cinéma. Bolsonaro, il veut contrôler le cinéma. Il veut créer un cinéma qui défende ses valeurs. Des valeurs de la famille, des valeurs patriarcales.
Les grandes valeurs historiques du Brésil.
Dans certains Brésil.
Ils aiment beaucoup les fonds sur des films sur l'indépendance. Ils ont fait déjà deux fonds sur ça. Ouais. Pour financer des films sur l'indépendance du Brésil en 1822. Donc c'est ça, c'est la nostalgie de l'armée brésilienne, de l'empire, je ne sais pas pourquoi.
Mais en même temps, je pense qu'il
y a
une production cinématographique au Brésil en ce moment très dense. Mmh. Et on voit qu'il y a une envie vraiment de parler de ça et de continuer à faire du cinéma et de parler de ça, plus poétiquement ou plus franchement directement. Mais à Cannes, par exemple, cette année, il y avait une présence de cinéastes brésiliens très importante. Et comme tu dis, dans tous les festivals du monde, le Brésil est présent dans des films. Donc, Bolsonaro, qui a tenté aussi d'imposer cette censure, finalement n'a pas été admise par le juge suprême pour le moment. Et beaucoup d'artistes brésiliens sont venus manifester au Parlement à Brasilia pour dire non, on ne va pas retourner dans une dictature, on ne va pas retourner vers la censure. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'envie de faire du cinéma encore.
Marcelo Barbosa, sur la situation, oui.
Eu penso que o cinema e o nosso filme também tem um papel simbólico.
Je pense que le cinéma et notre film aussi a un rôle symbolique.
Porque A gente vê muitas notícias na rádio, na TV, sobre o Brasil, e nós estamos aqui discutindo exatamente isso.
Parce qu'on entend beaucoup parler du Brésil sur les radios, à la télé, comme ce qu'on est en train de faire.
Mas é muito difícil da gente ter uma noção da realidade mesmo.
Mais c'est très compliqué d'avoir une notion, une réelle notion de la réalité.
E eu acho que os filmes, eles são responsáveis por isso, por essa... Pour entregar essa realidade.
Et je pense que les films, le cinéma est responsable et se doit de restituer cette réalité.
Então é uma briga simbólica também num campo simbólico muito forte e essa briga ele vai perder.
Et c'est donc un combat très fort dans le champ du symbolique et ce combat-là et Bolsonaro il le perdra.
Vous êtes sur quel projet après donc le portrait de cette militante trans, un portrait éminemment politique, vous avez un autre projet dans le même domaine?
A gente não tem muito tempo para isso ultimamente.
On n'a pas énormément de temps immédiatement pour y penser, bah mais ouais. si, on y pense quand même.
Et toujours dans une même direction?
Moi, je pense peut-être un peu à de la fiction, peut-être d'aller vers un langage encore plus poétique, peut-être justement moins...
Et le gourou de Bolsonaro, ce serait un excellent documentaire, un excellent sujet documentaire. Non mais c'est vrai, ce serait vraiment un personnage. Et de l'autre côté?
Il y a déjà un documentaire sur lui qui s'appelle Au Jardin des Afflictions.
Ça veut dire quoi?
C'est des jeunes d'extrême droite qui sont allés aux États-Unis pour les filmer pendant qu'ils font la chasse, la philosophie.
Ah oui, d'accord, donc c'est un film de propagande en fait.
Un peu. Oui.
Voilà, c'est pas un documentaire, non. Bien.
Non.
Une enquête. Benoît,
On en est où au niveau du ministère de la culture qui
a
complètement
plus.
Disparu? Ils ont voulu bannir le marxisme culturel, c'est ce qu'ils ont
exactement,
dit.
Exactement, hein. C'est lui qui. Donc le ministère de la culture est devenu un secrétariat du ministère du tourisme.
Alors que ça a été identifié par Djibel Drogil pendant des années,
oui,
quand
c'est, il était en train de vouloir. Il a eu des très excellents, pendant une décennie, 13 ans, il a eu des excellents ministres de la culture. Non, maintenant c'est un bras. C'est un secrétariat du ministère du tourisme au Brésil. C'est triste. Mais pour l'instant, c'est ça.
Oui, et très clairement, Bolsonaro a pris les milieux culturels pour donner des gages à son électorat évangélique, qui est très conservateur. La question, c'est que les milieux culturels, et notamment au Brésil, sont non seulement bien implantés, mais aussi ont cette capacité de rayonnement et ont cette capacité de mobilisation compte tenu des grandes personnalités qui incarnent la culture brésilienne, non seulement au Brésil, mais aussi à l'étranger. Chico Buarque vient régulièrement à Paris. Et donc, ces genres de personnalités ont cette capacité de résistance et de porter un message d'opposition, ce qui, d'une certaine mesure, limite et contraint l'action de Bolsonaro.
Et qui porte la parole des peuples autochtones du Brésil?
Les peuples autochtones eux-mêmes. Il y a eu ici en France, la semaine dernière, pas mal de rencontres avec des autorités, des ONG françaises, d'une délégation de 13 peuples autochtones, de l'articulation des peuples autochtones du Brésil, la PIB, qui est venue en France et qui a resté 35 jours en Europe pour parler. Là, ils appellent au boycott de tous les produits brésiliens en Europe qui tuent les peuples autochtones.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont été entendus à ce niveau-là?
Je trouve que c'est un travail de longue haleine. Les choses ne vont pas se changer du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut un processus, il faut une dynamique. Et comme disent le peuple autochtone, il résiste depuis 500 ans.
Eh bien, merci à vous. Merci à vous cinq. Vous restez encore tout de suite avec nous. On va parler musique, bien sûr, pas du tout brésilienne. Contre-programmation de Marion Guilbeault.
Rendez-vous sur France Inter.
C'est le live et ça vaut le coup, hein, ce soir encore, Marion.
Ah oui, Laurent, parce qu'en général, quand je parle de la musique de notre invité, de Fabio Viscogliosi, je dis la phrase suivante. Alors, il y a ceux qui l'adorent, comme moi, et ceux qui ne le connaissent pas encore.
J'adore. Voilà. Vous avez le sens de la formule.
C'est ça.
Vous devriez faire un peu de radio.
Peut-être.
Un peu.
Je vais m'y mettre. Alors, si ces chansons, elles sont restées confidentielles à Fabio, peut-être c'est parce qu'il mène plusieurs vies de front depuis une vingtaine d'années. Musique, dessin, littérature, peinture. Et il a bien raison, parce que chaque médium lui réussit. 3 romans déjà édités chez Stock, des bandes dessinées, des illustrations. Et surtout, 2 disques incroyables, totalement inclassables, étranges, terriblement séduisants, profondément mélancoliques, chantés en italien. Ça, c'était vraiment le petit truc qui fait le petit plus, voilà. Et c'était la langue de ses parents tragiquement disparus. Il y a eu 12 ans de silence
discographique entre Fenomeno en 2007 et ce Rococo, ce nouvel album, cette fois-ci majoritairement chanté en français. Alors on y retrouve absolument tout ce qui nous faisait palpiter sur les précédents, l'évidence mélodique, les arrangements rêveurs, sa voix de crooner nonchalant. Bonsoir Fabio, ça va bien ?
Bonsoir, ça va pas mal, ouais.
On retrouve toujours, j'avais une petite question pour vous avant que vous jouiez ce titre, on retrouve toujours vos dessins sur vos pochettes d'albums. Est-ce que c'est important que vos différents modes d'expression soient en lien de cette façon ?
Oui, parce que c'est une écriture en fait. Donc il y a l'écriture des mots, l'écriture de la musique et l'écriture du dessin. Donc c'est une écriture, une signature, oui. C'est ce que je suis réellement, ce que je peux faire avec mes deux mains. Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est vous le personnage un peu chevalin, à tête de cheval ou d'âne,
la tête d'âne
qui est sur toutes les pochettes, celui-là?
Ouais, c'est mon côté, c'est mon bonnet d'âne, en fait. Ouais. Côté mauvais élève.
C'est vous le mauvais élève? Mauvais élève. Ouais. Allez, on va vérifier ça tout de suite en live. Fabio Viscogliosi dans le Nervi. Fabio Viscogliosi, qui c'est extrait de son nouvel album Rococo. C'est sorti sur un super label, Objet Disque. C'est le label de Rémi Poncet. Rémi Poncet de Cheval Rex, qui est là à la guitare ce soir. Stéphane est à la basse, Antoine à la batterie. Et Fabio, Viscogliosi semble avoir passé la cinquième parce qu'il paraît qu'un nouvel album, Notte, en italien celui-ci, qui est annoncé pour 2020. Donc bon, on se reverra peut-être en 2020. Prise de son ce soir assurée par Nicolas Cazot et Mathias Alléon. Merci beaucoup d'être passé par le nouveau rendez-vous.
Et merci à tous nos invités. Merci Erika Campello, Gaspard Estrada, Aude Chevalier-Baumel et Marcelo Barbosa. Votre film formidable, Indianara, va sortir en salle mercredi prochain et il est en compétition au festival Chéri Chéri. Marcelo Caetano, Corpo Elettrico, ça va être présenté samedi à 15h au Forum des Images à Paris dans le cadre du festival Un État du Monde. Et je rappelle que vous êtes jury à Chéri Chéri. J'espère que vous allez bien voter. Chéri Chéri jusqu'au 26 novembre. Non, ça c'est pour le festival du Forum des Images. C'est ça, Benoît Lagane ?
C'est ça. Et il faut surveiller sur Internet puisque la conférence sur le cinéma brésilien va être mise en ligne très bientôt sur le festival. On le relaiera sur notre site.
Exactement. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes. Mais demain...
Venez tous et entrez dans ma secte où mes frères...
Eh oui, dérive sectaire, gros plan sur les sectes charismatiques à l'occasion de la sortie du film Les Éblouis, ça fait peur. On vous attend sur le sujet, vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses, vos témoignages au répondeur 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et en live, Marion ?
On aura la visite du groupe Dionysos.
Très bien. Des scientologues.
Ouais, aussi.
Parfait. Le NRV, c'est Marion Lully à la réalisation, programmation, préparation, Benoît Lagane, Adrien Nazelli, Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.